Professeur Viviane Ondoa-Biwole, vous publiez votre nouvel ouvrage au titre remarquable « Épidémiologie de l'économie et confinement de l'organisation Covid-19 », un ouvrage qui révèle d'ailleurs les incidences socio-économiques de la crise actuelle et les incertitudes qu'elle fait peser sur le développement. Alors, en des mots plus simples, parlez-nous de ce nouvel ouvrage, Viviane.
Mais déjà, avant de parler de l'ouvrage, je voudrais indiquer que je ne suis pas le seul auteur de cet ouvrage. Mmh. C'est un ouvrage que... je coédite avec une collègue, le professeur Mungu Sabine, et nous avons au total 19 contributeurs. Donc, je voulais dire déjà d'entrée de jeu que c'est une œuvre collective, collective des experts ou alors des spécialistes des sciences humaines qui ne sont pas du tout de la santé. Vous comprenez pourquoi ? Parce que la pandémie, pour nous, a également un volet social. Et il était important de révéler les premiers savoirs qui se dégagent du terrain du fait de cette pandémie. Donc, pour d'abord resituer la propriété de l'ouvrage, c'est un ouvrage qui est publié dans le cadre du Resfuge, qui est le réseau des femmes des sciences économiques et de gestion, disons globalement, en plus des deux disciplines des sciences humaines. Mmh. Donc, sciences humaines, sciences économiques et sciences de gestion. Donc, nous nous intéressons aux phénomènes sociaux. Publié par 19 contributeurs, nous avons 4 hommes parmi eux, ne dites pas que ce n'est qu'une œuvre de femmes, et publié aux presses universitaires de Yaoundé. Et l'ambition de cet ouvrage était de dévoiler, si on peut le dire ainsi, les premiers savoirs qui se dégagent de l'impact de cette pandémie sur les ménages, précisément les acteurs économiques, parce que c'est eux qui nous intéressent, c'est-à-dire consommateurs de biens et services, mais également les décideurs, je pense là à l'État, parce qu'il y a eu un ensemble de mesures qui ont été prises. C'était pour nous l'occasion également de voir si ces mesures rencontraient un besoin. Parce que c'est ça aussi la gestion, rencontrer un besoin et si ces mesures permettaient de résoudre un certain nombre de problèmes. Donc l'État est également ciblé. Nous avons également les entreprises prioritairement parce que vous savez que la pandémie vient créer une sorte de distorsion dans le marché. Il était bon de voir comment est-ce que les entreprises s'adaptent au-delà des préoccupations d'appui financier qui ont été évoquées par les patronats. Il était question pour nous de rentrer dans l'entreprise, comme chez nous on appelle rentrer dans la boîte noire, pour savoir ce qui s'est passé, comment est-ce que la pandémie a infecté tous les organes, si on peut reprendre la métaphore biologique, tous les organes de l'organisation, et comment les entreprises se sont protégées, ou alors quelles sont les décisions qu'elles ont prises. Donc voilà en gros l'idée véhiculée par cet ouvrage-là.
Alors, Madame Viviane Ondoa, vous co-signez, vous-même, vous l'avez dit, cet ouvrage avec le professeur Mungu Mbenda, Sabine Patricia, qui est maître de conférence, agrégée des universités en sciences de gestion, notamment à l'université de Yaoundé 2. Alors, la question, pourquoi ce choix et quel est son apport dans cette production ?
Alors, le choix du thème ou bien le choix de la coéditrice ?
Le choix de la coéditrice et peut-être du thème aussi.
Bon, la coéditrice, il faut dire que c'est une collègue. Et au-delà d'être une collègue, c'est une amie, j'ai même envie de dire une sœur, parce que nous cheminons ensemble depuis 1990. Nous avons fait la première et la terminale ensemble. Bref, nous avons à peu près le même parcours et nous avons beaucoup d'affinités intellectuelles et personnelles. Mais au-delà de cela, il faut dire que le thème retenu rencontre également nos intérêts de recherche. Et quand je dis nous, là, je pense à tous les contributeurs. Et lorsqu'on aborde le sujet, comme c'est le cas de la pandémie, le premier réflexe qu'on peut avoir, peut-être un réflexe normal et naïf, c'est de dire qu'il s'agit d'un problème de santé. Et pourtant, à la base de ce problème, en plus de ce que c'est une pandémie sanitaire, il s'agit prioritairement d'un problème social, ou tout au moins un problème qui va complètement déconstruire le tissu social, j'ai même envie de dire le tissu économique. Et de ce point de vue, il était difficile pour nous de rester insensibles à ce phénomène. C'est vrai que dans nos disciplines, nous nous intéressons souvent aux phénomènes longs, mais là, avoir une pandémie d'une aussi grave agressivité et rester insensible, c'était quand même un peu difficile. Et il était question pour nous, dès que la maladie dès qu'on a découvert notre premier cas, nous avons observé, nous avons commencé les travaux au mois d'avril, il était question pour nous de suivre les dirigeants, de voir quelles sont les transformations qui peuvent être visibles pour les 3 premiers mois. Et j'ai seulement envie de vous dire qu'en réalité, il s'agit, comme on le dit dans l'ouvrage, des premiers savoirs qui seront confirmés par la suite parce que nous sommes engagés dans d'autres travaux avec des méthodologies plus robustes dont les résultats seront dévoilés en décembre ou janvier. Mais il était d'abord question de voir les premières tendances qui se dégagent et éventuellement de formuler des recommandations qui permettent de juguler et de participer à la riposte, on peut le dire ainsi, parce que laisser la riposte simplement entre les mains des responsables sanitaires, ça nous semblait assez partiel.
Alors, cette crise, dites-vous, a modifié le comportement des acteurs de l'économie. Est-ce que c'est dire, Madame Ondoa-Viviane, qu'un vrai retour à la normale est inenvisageable pour le moment ?
Alors, Maintenant, retour à la normale, je voulais vous demander c'est quoi la normale. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on pourrait plus avoir un retour à la situation antérieure, parce qu'il y a des choses qui ont complètement changé. Si vous suivez, la tendance est vraiment à dire on va réinventer un nouveau futur. Maintenant, avec quel reste ou alors quelle relique et qu'est-ce qu'on va ajouter? Je crois que c'est ça la plus grande préoccupation, aussi bien pour les ménages que pour les entreprises. Et c'est la raison pour laquelle il était question déjà de mettre sur la table ce qui a changé. Comment ça a changé et comment les gens ont réagi pour voir s'il y a des ajustements qui s'avèrent indispensables pour survivre dans l'avenir. Parce que ne pas faire cette analyse tendait également à dire qu'on aurait pu prendre des décisions un peu intuitives, mais qui s'éloigneraient des attentes et peut-être des réalités qu'on pouvait aller chercher sur le terrain.
Quelles sont les clés que vous proposez pour relever l'économie camerounaise en chute en ce moment?
Ben écoutez, vous savez, je voudrais d'abord faire une petite différence entre l'économie et la gestion. C'est vrai que l'une se nourrit de l'autre, nous sommes des disciplines sœurs. Mais lorsque nous parlons de gestion ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le comportement des entreprises au sens, j'ai envie de dire, de la microéconomie, c'est-à-dire des décisions qu'ils prennent de leur comportement et éventuellement, disons, de leur rapport avec les autres. Donc, vous allez vous rendre compte que avant notre ouvrage, il y a eu plusieurs publications de nature macroéconomique. Vous avez eu la sortie du GICAM qui a fait un sondage avec un accent sur le plaidoyer financier. Vous avez une étude de l'Institut national de la statistique qui a été rendue publique, qui abordait des questions macroéconomiques, des questions d'emploi, de croissance, etc. Alors, notre rapport est dans la continuité ou dans la complémentarité de ces travaux et vise dans un premier temps d'indiquer le comportement comment est-ce que le comportement des acteurs a été modifié. Je vous prends un exemple. Le premier chapitre aborde la grande palabre autour de la notion même ou de la maladie de la COVID. Donc, il faut voir finalement comment est-ce que les gens perçoivent cette maladie. C'est un article qui a été rédigé par une collègue anthropologue de la santé, pour dire même pour s'attaquer au phénomène, même pour communiquer autour du phénomène, il faut savoir déjà quelles sont les perceptions des ménages. Parce que la communication vise à déconstruire certainement des informations qui ne sont pas correctes.
Bien
donc,
entendu.
Avec cet article, vous découvrez effectivement, et c'est assez amusant, c'est vrai qu'il y a des perceptions qui sont déjà connues, mais il y a d'autres qui ont été dévoilées et qui peuvent aider dans la communication. Donc, en termes de clés, vous avez posé la question sur la clé. Même pour vous, journalistes, vous allez trouver un intérêt. Parce que dans ce chapitre, par exemple, vous saurez quels sont les messages ou alors quels sont les mots qu'on doit utiliser pour déconstruire les messages ou alors la perception que les gens ont de la maladie. Ça, c'est par exemple une clé et un apport qui, de mon point de vue, n'est pas un apport négligeable. L'autre apport également, c'est comment est-ce que les dirigeants prennent des décisions en situation de fake news. Vous allez vous rendre compte que pour la maladie, il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé. Et ce qui est intéressant quand vous allez lire le chapitre concernant les fake news, c'est que les dirigeants, certes, sont victimes de fake news, mais parfois de manière inconsciente, sont également créateurs et véhicules de fake news. Et du coup, ça complique la prise de décision. Et donc, dans cet article, il est bon de comprendre finalement, au niveau de la gestion de l'information, comment est-ce que l'information bonne, mauvaise ou transformée influence finalement la prise de décision. Je vous prends un exemple simple, une anecdote. Lorsque il a été annoncé que les frontières allaient être fermées, les dirigeants qui vous disent que comme les frontières vont être fermées, ils ont suivi l'actualité, il y aura même aussi confinement, ils ont acheté plein de stocks, ils se rendent compte que les frontières internes ne sont pas fermées, il y a une incidence au niveau de leur performance. Donc, l'État n'avait jamais dit qu'on va fermer les frontières internes. Ils ont anticipé sur la base de quoi personne ne sait. Entre eux, ça circulait et sur la base de ce fake news créé, il y a eu une prise de décision qui a eu un impact dans une entreprise, dans un secteur précis. Et ça, ce sont des démarches qui ne sont pas négligeables. Je vous prends un autre exemple comme anecdote. Cela, ce n'est pas une anecdote, c'est une réalité. Lorsqu'on a fermé les frontières, au niveau des frontières entre voisins, il était retenu que les transporteurs, parce que vous savez, les marchandises continuaient de circuler, les cargos continuaient de circuler, il était question que les transporteurs observent une quarantaine de, disons, une quatorzième de 14 jours, disons, un repos de 14 jours pour voir s'ils vont manifester les signes de la COVID. Alors, ça freinait largement les flux entre pays, ce qui était normal. Mais ce qu'on a observé, c'est que lorsqu'on a eu les premiers tests, on s'attendait par exemple à ce qu'on envoie rapidement dans ces points de stoppage, de ces points d'arrêt, des tests rapides pour limiter la durée de je peux dire quoi, de cette réserve, de cette prudence. Voilà. Donc, avec une information comme celle-là, on voit que l'État pouvait prendre une décision différente. Et puis, il y a également pourquoi les gens n'utilisent pas, ne respectent pas les mesures barrières. Les gens vous disent, ils vous dévoilent ce qu'ils en pensent. C'est assez amusant, c'est assez intéressant. Et moi, je pense, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, parce que j'ai l'impression que vous mettez la pression, qu'il est utile de lire cet ouvrage qui est d'ailleurs d'accès libre à partir de demain, sur le site de l'Université de Yaoundé 2, 13 chapitres. La toute première partie, composée de 7 chapitres, aborde les comportements des individus et, disons, les acteurs économiques au sens de leur comportement en tant que consommateur. Et la deuxième partie aborde l'adaptation des entreprises. Et nous faisons également commenter des mesures gouvernementales, bien entendu. De toute façon, on va se rendre compte qu'il y en a qui étaient bienvenues et d'autres qui pouvaient être relativement différentes ou alors qui n'étaient pas véritablement opportunes.
Alors, en regardant le visage arrière de votre livre ou alors la dernière de couverture, on a l'impression que vous avez consulté toute l'intelligentsia pour cette production. 19 contributeurs de la haute classe, de la haute intelligence pour cet ouvrage. N'est-ce pas énorme, Viviane?
Ah non, c'est le moins qu'on pouvait faire. Il faut dire que c'est 19 auteurs. Vous avez des articles certainement en copublication, mais je crois qu'on aurait pu faire plus. C'est un ouvrage de 278 pages, parce que ce qui était déjà beaucoup, on aurait pu faire même 500 pages au besoin. Mais il faut dire que c'est un premier ouvrage. Et parmi les 19, vous avez une tendance que je ne voudrais pas laisser noyer, c'est que ce sont des femmes. Vous avez certainement remarqué qu'il y a beaucoup de femmes, il y a 15 femmes et puis 4 hommes. C'est dans le cadre d'un réseau. C'était également une façon pour nous, au-delà de la science,
de bafouer la parité.
De marquer notre
présence. Et de montrer la super puissance des femmes sur les hommes, évidemment.
Alors, ce que je voulais également faire remarquer, c'est que on a la contribution également d'une collègue gabonaise, le professeur Mbouna, qui est gabonaise, et puis d'une collègue également à Douala, le professeur Biboum. Donc, il y a 4 femmes de rang magistral, un professeur homme de rang magistral, ça fait 5, et puis le reste, c'est des collègues docteurs chargés de cours. Et nous avons également eu la contribution de 3 professionnels et un doctorant.